Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Hervé Rothen, directeur de l'Institut européen des musiques juives. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sandrine.
Alors quelques mots de présentation, hein. Vous pouvez compléter ou me contredire si je me trompe ou si j'oublie des choses. Vous êtes docteur en musicologie de l'Université Paris 4 Sorbonne, prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et ethnomusicologue de formation. Depuis toujours, hein, depuis très tôt, vous vous êtes intéressé aux musiques juives, vous allez nous en parler. Vous êtes l'auteur de nombreux articles, ouvrages et disques portant sur le sujet, conférencier, producteur d'émissions de radio. Et vous êtes aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de musique juive dans le monde. Et vous êtes également et surtout, ce qui nous vaut votre présence aujourd'hui ici, le directeur de l'Institut européen des musiques juives, une institution dédiée à la préservation, à la recherche et à la diffusion du patrimoine musical juif en Europe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans vos titres ?
Non, ça fait déjà beaucoup. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup.
Alors, je vais vous poser une question difficile qui est aussi souvent débattue par les universitaires. C'est quoi une musique juive ?
Alors déjà, je le conjuguerai au pluriel, même au pluriel de l'infini. Est-ce que vous connaissez la blague « deux juifs, trois avis » ? Eh ben, pour les musiques juives, c'est encore pire que ça. C'est une prière, une occasion et 500 ou 1000 musiques différentes. Donc les musiques juives, c'est tout simplement les musiques qui ont accompagné les juifs tout au long de leur tribulation et encore aujourd'hui, et c'est un objet qui présente, alors j'aime bien l'appeler comme ça, une pluralité singulière ou une singularité plurielle parce que justement, ces musiques sont les réceptacles d'une histoire, d'une mémoire, d'une transmission qui pour moi sont vraiment importantes parce qu'à travers ce travail et même cette mission, je dirais, que nous menons à l'Institut européen des musiques juives, c'est pas seulement recueillir des musiques do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ou entendre des airs qu'on aime bien, c'est aussi recueillir des traces d'histoire, des traces de témoignages, des témoignages, des transmissions qui fait qu'à travers la musique, tout d'un coup, on voit un panorama qui se dégage et en fait, c'est beaucoup plus largement l'histoire du judaïsme et des juifs en général.
Vous avez eu la gentillesse de nous apporter plusieurs extraits musicaux et on va commencer par le premier, un chant judéo-espagnol. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, c'est un chant judéo-espagnol, un chant de mariage, en fait, qui est assez amusant, en fait, c'est pour les, nos auditeurs qui comprennent le judéo-espagnol. El novio non quiere dinero, ça raconte une histoire très simple, c'est que lors d'un mariage, à l'époque, donc ça se passe au début du XXe siècle, il y avait une dot à donner par les parents de la mariée. Et donc, le marié, au départ, très noblement, refuse cette dot pendant les trois premiers couplets de cette chanson. Puis, à la fin, pendant les trois derniers, il commence à fléchir, puis à réfléchir, puis il se dit que c'est pas si mal que ça. À la dot, alors à la fin il accepte et il en demande presque plus. Voilà.
On écoute.
Al novio no quiere dinero, al novio no quiere dinero, quiere a la novia de más al bueno. Yo vengo a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. El novio no quiere educados, quiere a la novia de más al alto. Yo vengo a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Al novio no quiere manillas, al novio no quiere manillas, quiere a la novia cara de alegría. Yo vengo a ver que gocen y logren y tengan mucho bien.
al novio ya quiere dinero, al novio ya quiere dinero, también a la novia de más al bueno. Yo vengo a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Ya quiere educados, al novio ya quiere educados, también a la novia de más al alto. Yo vengo a ver que gocen y logren y tengan mucho bien. Al novio ya quiere manillas, al novio ya quiere manillas, también a la novia cara de alegría. Yo vengo a ver que gocen y logren y tengan mucho bien.
Hervé Rotten, quand, comment et pourquoi l'Institut européen des musiques juives a-t-il été fondé ?
Alors pourquoi ? Je prendrai par l'envers parce que pour moi ça me semblait être une nécessité absolue. Bon déjà, je m'inscris aussi dans une lignée de musicologues, d'ethnomusicologues. Un ethnomusicologue, c'est un musicien musicologue qui travaille en tenant compte du contexte évidemment ethnique. C'est-à-dire une musique ne naît pas dans le néant, c'est le fruit d'une société, le fruit d'une ethnie. Donc, on resitue toujours ces musiques dans le contexte du judaïsme, comme j'en ai parlé. Et il y a eu avant moi des grands musicologues, Idelson, bien sûr, au début du XXe, et d'autres, Israël Adler, par la suite, auprès de qui j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, il se trouve que les musiques juives ont été véhiculées pendant des siècles par la tradition orale. Et ça posait pas de problème, puisque de père en fils, de mère en fille, on se transmettait des airs qu'on avait entendus, tout se passait par la tradition. Et puis, au tournant du XIXe siècle, avec la modernité, on a commencé, et même avant déjà au XVIIIe siècle, à noter des musiques, on a commencé à s'appuyer de plus en plus sur l'écrit, et la tradition orale, peu à peu, s'est perdue, se perd de plus en plus. Alors ça, je parle dans le monde occidental ashkénaze, mais même maintenant chez les séfarades, c'est la même chose, la tradition orale se perd, il y a des chaînes qui se brisent. Donc, le rôle de l'Institut, c'est quoi ? C'est justement de récupérer ces maillons de chaîne et puis de tâcher de les rassembler et de faire en sorte que cette chaîne puisse se perpétuer, même en l'absence des transmetteurs.
Est-ce que vous êtes présent depuis le début à l'Institut européen des musiques juives ?
Alors, je dirais que oui, je suis présent, puisque quelque part, j'en suis un peu le créateur, mais évidemment, j'aurais jamais pu le créer tout seul si je n'avais pas eu l'appui de personnalités, surtout d'institutions importantes comme la Fondation du judaïsme français, comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation Rothschild et bien d'autres encore que vous m'excuserez de ne pas nommer ici, qui ont cru en ce projet, qui l'ont soutenu et qui ont fait que ce travail, qui est vraiment un travail de fond, de terrain, ait pu se développer depuis maintenant. L'Institut a été créé en 2006, donc vous voyez, ça fait 18 ans. Au départ, c'était un simple programme de la Fondation du judaïsme français qui s'appelait Patrimoine musical des Juifs de France et qui avait été lancé par Nelly Hanson, à l'époque la directrice de la Fondation du judaïsme français. Et puis ça s'est développé, on a commencé à recueillir des archives, à faire des disques. Ce que vous avez entendu comme musique et ce que vous entendrez, c'est les disques qui sont produits par l'Institut européen des musiques juives. Donc on s'est développé. On a recueilli donc des partitions, des photos, des histoires de vie, des morceaux, beaucoup d'enregistrements. Et puis on s'est dit après que les garder pour nous, ça ne servait à rien et qu'il fallait surtout les rendre accessibles à tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait progressivement grâce au numérique. On a commencé à tout numériser, puis à Internet, on a commencé à rendre ces collections accessibles. Et c'est ça aujourd'hui l'Institut, c'est rendre ce patrimoine accessible à tous.
Donc c'est collecter des musiques juives, au pluriel, on l'a bien compris, et puis les transmettre et les faire connaître au public. Comment le public peut-il avoir accès aux collections de votre institut ?
Alors déjà, le public peut nous rendre visite, s'il est parisien ou francilien, évidemment. On est dans le 13e arrondissement, vous allez sur Internet, et c'est surtout sur Internet, vous avez notre site Internet, tout simplement, c'est IEMJ, ce sont les initiales de Institut Européen Musique Juive, donc IEMJ.org. Et là, vous accédez à un monde. Pourquoi un monde ? Parce que vous avez plus de 1000 ou 1400 articles en ligne, traduits en plus en 5 langues, donc ça touche vraiment un public du monde entier. Hein. Aujourd'hui, le site internet de l'Institut, c'est plus de 200 visiteurs chaque jour, 80 000 visiteurs à peu près par an, donc vous voyez, c'est immense. Et vous avez surtout accès à toutes les musiques du judaïsme. Alors, accès, ça veut dire quoi ? Vous avez, par exemple, des playlists que vous pouvez écouter sur tous les sujets, aussi bien ça peut être sur les fêtes juives, que sur un chanteur en particulier, que sur un aspect des musiques juives. Et donc, à chaque fois, vous pouvez passer des heures. Donc, allez voir notre site internet. Vous avez aussi des articles de fond, des biographies, beaucoup de choses. Et vous avez le catalogue des collections que vous pouvez consulter. Et ce catalogue vous permet d'accéder, là aussi, à des centaines de milliers de documents.
Tout à l'heure, nous écoutions un chant judéo-espagnol. On va passer de l'autre côté, hein, avec une chanson yiddish revisitée à la sauce klezmer. De quoi s'agit-il ?
Alors, vous voyez, nous, on ne s'intéresse pas seulement aux musiques du passé. On s'intéresse également aux musiques juives dans la manière dont elles évoluent. Une musique évolue toujours. Si une musique est figée, elle meurt. Donc ça, je remets les choses en place. Parce que souvent, on me dit, oh, les musiques de la Bible, les psalmodies, etc., etc. C'est du temps dur, bien antérieur au roi David. Ça remonte à la nuit des temps. Non, les musiques ont toujours évolué, même les musiques liturgiques. Je vais vous donner juste un exemple qui est très amusant, que j'aime bien donner. Il y a fort longtemps, j'ai enregistré à Bayonne un vieux monsieur qui chantait encore un vieil air du rite portugais, un Lera Dodi, et il chantait ce Lera Dodi sur un air. Il me dit ça date du temps du roi David. Alors j'étais un peu sceptique, parce que je me dis il n'était pas là au temps du roi David pour le savoir, puis ça ressemblait pas à ça. Et puis il s'avère que cet air, par la suite, après quelques recherches, c'était un air de musique ottomane du XVIIIe siècle, qui était joué par la fanfare ottomane à Jérusalem, et par le jeu des émissaires qui allaient dans les différentes communautés, cet air s'est répandu partout. Et cet air était tellement connu à l'époque que même Mozart l'a utilisé dans son opéra L'Enlèvement en Sérail. Donc on retrouve exactement le même air qui est devenu un Lera Dodi dans beaucoup de communautés juives. Donc, vous voyez qu'il y a une circulation des airs, que ça s'enrichit sans arrêt. Et cet air qu'on va écouter, ben c'est quoi ? C'est tout simplement la musique klezmer, la musique des juifs d'Europe orientale, instrumentale en général, qui se mélange avec la salsa, qui est une musique évidemment qui nous vient complètement d'ailleurs. Et pour moi, c'est pas contradictoire.
On écoute ce mélange des saveurs.
Unas der Rhein bezahlt. Unas der Rhein bezahlt. Salsa. Tanzna. Tanzna. We'll be right back.
C'est très intriguant, Hervé Rotten, ce que vous nous racontez. Il m'arrive de dire que quand on est juif ou d'origine juive et qu'on a tout oublié, il reste les plats et il reste les airs, les mélodies, les musiques. Comment vous les collectez ? Est-ce que les chants anciens, votre institut permet de les sauver ? Comment ça fonctionne en fait ?
Alors, comment ça fonctionne ? En fait, de plus en plus, au départ de ma carrière, j'ai beaucoup collecté en tant qu'ethnomusicologue. J'ai travaillé, comme je l'ai dit, sur différentes traditions, notamment la tradition judéo-portugaise, donc des synagogues de Bordeaux,
Bayonne. Mais là, concrètement, qu'est-ce que vous collectez ? Est-ce que vous allez enregistrer des personnes qui chantent ? Il y a des disques qui circulent ou des CD dans les familles ? Qu'est-ce que c'est vos matériaux ?
C'est tout ça à la fois.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va à la fois sur le terrain enregistrer, collecter, et en même temps, on a des familles qui viennent à l'Institut, qui nous contactent pour nous dire, voilà, on a chez nous, on a retrouvé différents papiers de notre mère, notre grand-père, notre grand-mère, et plutôt que de les jeter, on préfère vous les donner. Et on trouve des trésors comme ça, donc qui nous apportent soit des disques, soit des photos, soit des histoires de vie, des biographies, enfin des choses absolument extraordinaires. Et c'est, comme je vous le disais, c'est des petits bouts de mémoire qu'on attrape comme ça. Donc il y a un côté à la fois frustrant, et, parce qu'on se dit, bon, ben, on a attrapé, mais il manque plein de choses. Et en même temps, il arrive par moment que quand on commence à travailler sur un sujet précis, eh ben on voit un tableau qui se reste comme un puzzle où les petits bouts s'assemblent et finissent par donner une image qui devient de plus en plus nette.
On vous écoute, on vous sent passionné. Est-ce que c'est ce dont vous rêviez de travailler dans un tel institut ?
Alors, certainement, parce que je n'ai pas perdu cette passion qui m'anime depuis plus de 30. Plus que ça, j'ai commencé à travailler en 1988 sur les musiques juives, donc vous voyez que ça remonte un peu. Je suis tombé dedans, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Au départ, j'ai une formation plutôt classique, comme vous l'avez souligné. Et puis, j'ai découvert les musiques juives et ces musiques qui sont en fait les premières musiques du monde, de par leur diversité, m'ont complètement happé. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai travail de mémoire et de transmission à faire.
Est-ce qu'on peut dégager une sorte de typologie, je ne sais pas, entre les musiques séfarades, à mon avis, qui doivent être très différentes entre celles qui sont liées aux juifs expulsés d'Espagne ou celles où les séfarades, les juifs ashkénazes. Est-ce qu'il y a des grands groupes comme ça de références ou d'archives musicales ?
Alors, bien sûr, les traditions musicales. Alors, quand on dit les juifs séfarades, c'est très, très large. Il y a de grandes différences entre...
Et même Ashkenaz aussi.
Mais évidemment, entre les juifs, par exemple, les traditions du Maghreb et celles de Turquie, c'est pas la même chose. Et pareil, effectivement, comme vous l'avez souligné, chez les juifs Ashkenaz, entre la tradition consistoriale de l'Ouest et les traditions plus de l'Est, comme la tradition sfarade ou pauline qu'on a en France, et sans parler des traditions racidiques, c'est complètement différent. Mais on arrive, il y a des traits communs, parce que les musiques juives, partout où il y a des juifs, ils se sont imprégnés des musiques qui les environnaient. On pense souvent que les juifs ont vécu comme ça, en vase clos, dans des ghettos. Mais en fait, il y a toujours eu des échanges. C'est-à-dire, et les juifs ont été des vecteurs. Et c'est ça qui est passionnant dans ce sujet-là, c'est qu'ils ont à la fois reçu et ils ont donné. Il y a cette notion de passeur, et ça se retrouve beaucoup dans les musiques, et vous l'avez dit, dans la cuisine également.
On a l'habitude, on a l'impression que les musiques juives, ce sont des musiques liturgiques, des prières, peut-être aussi des comptines qui sont chantées, des musiques qui sont festives. Est-ce que c'est tout ça à la fois ? C'est quoi en fait les musiques juives ?
Alors, c'est très difficile de répondre. Moi, ça, je vous dis, ça fait plus de 35 ans maintenant que je cherche une définition. Et à part de dire qu'il s'agit les musiques juives ont une pluralité singulière ou une singularité plurielle, c'est-à-dire qu'en fait, les musiques juives sont à l'image du peuple juif. Essayez de définir le peuple juif. On a même essayé de définir qu'est-ce que c'est que l'art juif. Et bah, vous avez le même problème avec les musiques juives.
C'est une ancienne qui se pose et se repose.
Absolument. Ouais. Donc finalement... quand on me demande ça, mais je finis par me dire, adopter une position un petit peu, entre guillemets, sartrienne, enfin du philosophe, dans le sens où finalement, c'est pas nous qui décidons si une musique est juive ou pas, mais c'est la façon dont elle est vue par les autres, qui la considèrent comme juive ou non. Regardez la musique klezmer, on en parlait, vous avez énormément de groupes de musique klezmer aujourd'hui qui sont constitués de non-juifs, et même parfois en Bretagne ou ailleurs loin, et qui jouent cette musique qui, elle, est considérée comme juive.
Est-ce qu'il y a des chercheurs qui se rendent à l'Institut européen des musiques juives pour trouver des matériaux, faire leurs recherches, et en général, sur quel thème ils travaillent ?
Alors, on a des chercheurs, absolument, du monde entier. Hier encore, on avait un chercheur australien. On a des chercheurs américains, canadiens, des chercheurs français, des chercheurs allemands. Et d'ailleurs, on a plus de chercheurs, ça je le souligne, parce qu'on a plus de chercheurs qui viennent de l'étranger que de chercheurs français. Parce qu'on a un souci en France quand même, c'est que il y a finalement très peu de chercheurs dans le domaine des musiques juives. Et ça, ça pose un vrai problème et de réelles questions, parce qu'on est quand même en France la troisième communauté au monde, avec une richesse infinie au niveau des musiques. Et moi, je le dis, mais il faut susciter aussi des vocations chez les jeunes chercheurs, parce que sinon, ce travail doit se poursuivre, le travail que j'ai entamé, bien sûr. Après, vous parlez de chercheurs, je voudrais juste vous dire qu'on a aussi une actualité. On organise des conférences, on organise des concerts, on édite des disques, on fait énormément de choses. Et parmi les choses qu'on organise à la rentrée, j'invite donc les auditeurs de Radio Shalom, les 20 et 21 octobre, donc, il y aura un colloque très important sur les musiques juives ashkénazes. Alors, je suis désolé par rapport à nos auditeurs séfarades ou autres, ça viendra après, promis, mais là, c'est les musiques juives ashkénazes. Et ça va être avec donc l'Institut européen des musiques juives, mais également la Sorbonne, l'INALCO, l'Université de Strasbourg, l'IREMUS, un laboratoire du CNRS, etc. Avec des chercheurs donc du monde entier qui vont pendant 2 jours parler à la fois des musiques comme des musiques populaires ou profanes comme le klezmer et la chanson yiddish. Il y aura notamment Michel Tauber et Alice Mazen qui vont parler. Et une journée qui sera consacrée aux musiques liturgiques avec Alexandre Serveux et moi-même. Et chacune de ces journées, la première se passera au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 20 octobre. Le 21 octobre, ça se passera à l'INALCO. Et le soir, à chaque fois, vous aurez un concert qui clôturera donc
c'est
ces
magnifique.
Journées.
Magnifique. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie d'Hervé Roten, directeur de l'Institut européen des musiques juives. Les musiques juives, vous l'avez dit, sont imprégnées du contexte des juifs et des pays dans lesquels ils vivaient. Est-ce que, plus qu'un autre moyen d'expression, ce particularisme-là peut toucher l'universel ? En d'autres mots, est-ce que là où tout a échoué pour rassembler les gens, les musiques peuvent rapprocher ?
Oui, absolument. Les musiques peuvent rapprocher. J'en donnerai pour exemple, j'ai encore reçu un mail il y a 2 jours d'un artiste iranien qui justement allait dans ce sens du rapprochement. Il me demandait des musiques juives et il y avait un rapprochement, justement il cherchait la voie de la paix à travers les musiques et c'est pas le seul. La musique a un avantage, c'est que c'est un médium qui est universel. Il n'y a pas de parole, ça fait appel à l'émotion, ça fait appel aux sensations, ça fait vibrer au sens réel du terme et à ce sens ça touche tout le monde. Donc oui, les musiques juives peuvent être et sont certainement un médium de la paix, un médium de la communication entre les peuples.
Est-ce que le 7 octobre a changé quelque chose dans la fréquentation de l'Institut ou dans le souci d'accéder à des musiques juives traditionnelles ?
Alors, ça n'a rien changé par rapport aux demandes qu'on avait. Beaucoup de demandes se font d'ailleurs par mail, donc on a l'adresse mail sur le site internet ou par le site internet. Ça a évidemment beaucoup changé par rapport à 2 choses. Déjà, évidemment, comme partout, on a dû prendre des mesures de sécurité supplémentaires. On a aussi été obligé de faire attention aux événements qu'on organisait. Ça a changé aussi qu'on sent qu'on est dans un monde qui change. Et ce monde qui change, qui est inquiétant, on essaie quand même de l'illuminer avec nos musiques, avec le fait que, quoi qu'il arrive, ce travail doit continuer. C'est ce que j'écris au début, vous savez, après le 7 octobre et pendant au moins un mois, on était tellement sous le choc qu'on ne savait pas si on devait continuer nos activités, si on devait continuer à envoyer des lettres d'infos. Et puis bon, il y a un moment, on s'est dit qu'il fallait vivre et que c'était important que justement... Vous savez, moi, je suis issu d'une famille, finalement, et c'est aussi peut-être quelque part, où ma mère était enfant cachée, vous voyez. Donc, il y a ce phénomène de résilience.
Oui.
Et ça, c'est très important parce qu'elle était orpheline à 12 ans. Et bien, elle a choisi la vie. Elle nous a transmis le fait que la vie devait être plus importante que tout. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Le 7 octobre est là. Et bien, il faut continuer à vivre, à transmettre.
Le plus ancien morceau musical que vous ayez, il date de quelle époque ?
Alors, du tout début du XXe siècle, c'est sur un vieux disque, qui nous vient de, je pense, de Russie, en tout cas, voilà, à l'époque, l'Empire russe. Et en ce qui concerne les partitions, on a des partitions de la première moitié du XIXe siècle, ce qui est déjà très ancien, puisque la musique a été notée, comme je vous l'ai dit, vers la fin du XVIIIe, plutôt 19e, début 19e. Et on a même des livres dont certains remontent avant la Révolution française.
Et les morceaux les plus récents, est-ce que ça vous intéresse, qui se fait aujourd'hui ?
Alors bien sûr que ça m'intéresse, et même on joue un rôle quelque part en produisant des disques, un rôle pour encourager cette création, parce que comme je l'ai dit, les musiques ne sont pas figées, il faut qu'elles évoluent, sinon elles meurent. Donc oui, bien sûr que ça nous intéresse, et on a produit une trentaine de disques.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser, puisque alors, l'Institut européen des musiques juives, c'est un fonds, des sources qu'on peut aller consulter sur place. C'est une newsletter aussi qu'on reçoit régulièrement et notamment avant les fêtes. On est toujours ravis de pouvoir se plonger en avance en écoutant ces musiques. Et puis, ce sont des CD. Combien de CD vous avez édités ? Est-ce qu'il y a des livres également ?
Oui, il y a deux livres, il y a des CD et il y a beaucoup de partitions de musique. Parce que l'important aussi, c'est que cette musique soit jouée. Il y avait une vraie demande de la part des musiciens, mais aussi des chorales. Donc on a édité, je crois aujourd'hui, on n'est pas loin de 70 partitions de musique. On a édité en tout près de 100 ouvrages, 70 partitions, 30 CD. Et les CD, en fait, il y a quatre collections. Il y a vraiment la collection des musiques qui s'appelle Patrimoine musical des Juifs de France, où on a fait des recherches historiques sur non seulement les Juifs de France, mais on est vraiment dans des musiques plus traditionnelles. On a une collection qui s'appelle Découverte, et c'est justement ce qu'on a entendu tout à l'heure avec ce mélange de klezmer et salsa, c'est comment les musiques juives aujourd'hui se mélangent à d'autres musiques, deviennent des musiques du monde, ou au contraire, comment certains musiciens se réapproprient certaines musiques, voilà. Et puis, on a une collection archive où on a remasterisé, par exemple, sur 6 CD, une centaine de 78 tours de la musique des cafés et cabarets yiddish juste après-guerre. Donc ça, c'est encore une histoire passionnante. Et puis, la dernière collection dont on va entendre un extrait s'appelle la collection classique. Et ça, c'est pour montrer comment aussi les compositeurs de musique dite classique se sont appropriés ces musiques juives et l'ont également transformée.
Est-ce qu'il y a un équivalent en Europe ou à l'étranger de cet institut ?
Alors, il y a des équivalents en Israël, bien sûr, puisqu'il y a la Bibliothèque nationale et la Médiathèque nationale, voilà, qui a un devoir de conserver l'intégralité des parutions. Il y a d'ailleurs le Centre de recherche sur les musiques juives à Jérusalem. Après, aux États-Unis, bien sûr, il y a, mais par exemple, le YIVO à New York. Mais je dirais, en Europe d'abord, on est quasiment les seuls à faire ça de manière systématique. Il y a d'autres instituts, mais qui font soit des festivals de musique klezmer comme à Londres, soit de la recherche comme à Hanovre. Nous, on est vraiment un centre de documentation de ressources et de diffusion de ce patrimoine. Et quelque part, même par rapport aux Américains, on est peut-être les seuls à faire ça vraiment de manière systématique.
C'est incroyable. Alors, on est quelqu'un qui a été bercé soit par une mélodie yiddish, par une grand-mère, un père qui s'en souvient plus, ou du côté du Maghreb, par un chant traditionnel judéo-marocain. On a ce petit air en tête, mais on ne sait pas exactement comment le retrouver. Si on vient chez vous et on vous le chantonne, on vous dit quelques notes, vous pouvez nous aider ?
Alors, dans mon cerveau, il y a un certain nombre de neurones, mais malheureusement, il n'y en aura pas assez que tous les neurones que tous les airs juifs existants. Mais par contre, oui,
on tape par exemple berceuse judéo-marocaine ou berceuse yiddish, alors, on peut trouver des choses.
Des centaines de résultats. On a sur notre catalogue en ligne, on a à peu près 90 000 enregistrements audio. Je ne sais pas si vous voyez la quantité, et on a des partitions, des milliers de partitions. On a numérisé plus de 450 000 pages de partitions. Pour vous donner un ordre d'idée, on a toutes les archives recueillies, les archives de la Grande Synagogue de la Victoire, les archives de Metz, la Grande Synagogue de Metz, de Reims, du Luxembourg. Enfin, on a un vrai patrimoine, sans compter tous les livres, toutes les photos, toutes les lettres, les échanges entre musiciens. Enfin, on peut faire sur notre catalogue des tas de recherches. Et en plus, on peut écouter des extraits ou voir des extraits de pages. On est limité par le copyright, par le droit évidemment, mais on peut voir et accéder. Et si vraiment on est intéressé, on prend rendez-vous ou alors on se met en contact avec nous par mail. Et après, on peut venir sur place. Et si on est loin, et ben on peut, selon les morceaux de musique, avoir une copie si c'est dans le domaine public, évidemment.
Alors, la même question, si on souhaite acheter les partitions, les CD ou les livres, comment fait-on ?
Alors, déjà sur notre boutique en ligne, donc toujours sur le même site, iemj.org, vous avez une boutique en ligne qui vous permet de commander donc les CD, les partitions. Mais les CD, bien sûr, on est distribué aussi, on est accessible sur toutes les plateformes numériques. Vous savez qu'aujourd'hui, le numérique est un canal incontournable. Donc, on est accessible partout, sur toutes les plateformes, hein, YouTube, Deezer, Spotify, Apple, etc. Quoi.
Vous en avez parlé donc, de l'Institut, des publications. On a parlé des ressources. La newsletter, on en a dit un mot. C'est vous qui la composez ? Elle paraît à quelle fréquence ? Et si, de la même façon, quelqu'un souhaite recevoir régulièrement, comment fait-il ?
Alors, pour recevoir régulièrement, c'est facile. Il va sur notre site internet. En bas de la page d'accueil, il y a marqué « Inscrivez-vous à la newsletter ». Alors, je dis bien en bas parce qu'on nous a dit « Pourquoi vous ne l'avez pas mis en haut ?» Et la personne avait raison, ça aurait été mis en haut, mais il y a tellement de choses. Donc, en bas, on s'inscrit, on peut se désabonner à tout moment. La newsletter, elle part en principe tous les 2 semaines. Donc, ce n'est pas trop envahissant, sauf quand il y a une actualité, on fait un flash info, etc. Mais toutes les 2 semaines, ça, c'est pour la newsletter en français. Il y a à peu près 5 à 6 000 abonnés à la newsletter. Et on a une newsletter en anglais aussi. Celle-là, elle part tous les mois. Voilà. Et qui s'occupe du site internet ? Eh bien... alors vous voyez c'est une histoire, on est une équipe, vous savez, à l'Institut. Et bien, il se trouve que je travaille avec ma femme,
oui.
Voilà, et qui s'occupe elle de tout, justement de toute la mise en ligne, la communication entre autres, parce qu'elle fait beaucoup d'autres choses, et qui s'occupe de la newsletter. Je m'occupe évidemment de la partie éditoriale, mais toute la mise en forme, la publication, la traduction, c'est elle, et je la remercie publiquement, qui s'en occupe. Après, j'allais dire, il y a autre chose qu'il faut signaler, c'est que ce travail, qui est un travail immense, on est une petite équipe, on est une petite association.
De combien de personnes ?
4 salariés,
oui.
Dont certains pas à temps plein, donc ça fait une petite équipe pour faire un travail immense, et donc on recrute des bénévoles. On a une petite dizaine de bénévoles qui viennent régulièrement à l'Institut, mais on est ouvert bien sûr à toute proposition de bénévolat parce que c'est un travail de fond, un travail très long.
Est-ce que vous avez des projets, des choses dans l'avenir très proche sur lesquelles vous souhaiteriez travailler ?
Vaste question. Alors des projets, j'en ai toujours. Après, il faut être réaliste, comme je l'ai dit, en fonction des moyens dont on dispose. Qui malheureusement ne se sont pas accrus avec les années, ça c'est certain. Vous parliez du 7 octobre, ça a été aussi comme dans beaucoup d'associations, on a vu une nette chute des subventions, des dons, etc., ce qui est tout à fait normal vu la situation. Mais voilà, on est obligé on a été obligé par certains moments de faire des choix. Et faire des choix, c'est toujours très difficile. Mais il n'en demeure pas moins que, par exemple, là, cette année, j'ai parlé de ce colloque qu'on organise autour des musiques ashkénazes les 20 et 21 octobre. On a fait aussi, il n'y a pas longtemps, je reviens de Cavaillon, où il y a eu tout un événement autour de Darius Milhaud, cet Israélite provençal, comme il se définissait lui-même. Et j'ai pu montrer que finalement, Milhaud était très influencé par les musiques juives comtadines, qu'on retrouve dans ses œuvres, beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc ça, c'était assez passionnant. Après, on a toujours des projets de concerts, on a des projets aussi d'édition de partitions. Notamment, le premier morceau qu'on a écouté, ce morceau judéo-espagnol, a été composé par Alberto MC. Alberto MC, c'est un grand compositeur qui aujourd'hui revient entre guillemets à la mode parce qu'il était tombé un peu dans l'oubli. La famille nous a remis, voilà, l'exemple type, nous a remis l'intégralité des archives, dont certains morceaux jamais publiés. Et aujourd'hui, il y a des disques qui sont sortis dans le monde entier, au Canada, en Amérique, enfin aux États-Unis, en France, en Allemagne, autour de son œuvre. Et bien là, on va publier des partitions aussi de ce compositeur pour continuer à le diffuser à travers le monde.
Et les questions pédagogiques pour les enfants, est-ce que des choses sont prévues, programmées ?
Alors, pour les enfants, ça c'est une question qu'on m'a souvent posée, notamment en rapport avec les écoles de l'Alliance. On m'a dit, oh, ça serait formidable que vous puissiez faire intervenir dans les écoles, etc. Après, je dis souvent, je ne demanderais pas mieux, le problème c'est que je ne suis pas nombreux. C'est-à-dire que les journées n'ont que 24 heures et souvent, je ne vais pas dire que j'en travaille 23 sur 24, mais c'est pas loin. Pour les enfants, ce n'est pas aujourd'hui prévu. Je donne des cours, j'ai sans arrêt des demandes de cours, je fais des conférences sur les musiques juives, je fais ce que je peux. Après, il y avait un projet qu'on m'avait soumis, mais qui pour l'instant est en attente, mais que je trouve un très beau projet, qui est un projet qui va dans le sens de la transmission, qui était d'essayer de travailler en relation avec des mouvements de jeunesse, comme les EI par exemple, qui irait dans les différentes communautés faire de la collecte. Et ça permettrait, vous voyez, de faire cette transmission aussi avec la jeune génération. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un projet
oui,
qui n'a pas encore
si
vu le jour.
Si quelqu'un nous écoute au niveau des EI, peut-être qu'il viendrait à vous contacter. Si, en une ou deux phrases, vous deviez résumer la mission de votre institut, qu'est-ce que vous diriez ?
Mot mission, je dirais transmission, tout simplement. L'Institut, comme je l'ai dit, recueille des traces, recueille des... Vous savez, on est de passage sur Terre, mais ça donne du sens. Le travail qu'on fait à l'Institut donne vraiment du sens. Et tous les gens qui viennent, même les bénévoles, il y a une ambiance d'abord très sympathique. Hein, c'est pas pour faire de la publicité, mais tout le monde s'entend très bien. Et on a l'impression d'être utile, voyez, de faire quelque chose qui a une dimension universelle. Donc la mission de l'Institut, c'est, encore une fois, j'insiste, c'est recueillir ces morceaux de mémoire, mais c'est pas simplement les recueillir pour les garder, c'est surtout les rendre accessibles pour que d'autres puissent s'en servir.
Est-ce qu'il y a un point qu'on a oublié, sur lequel vous souhaiteriez insister ? Vous avez parlé de ce grand événement, les 20 et 21 octobre, le colloque sur les musiques juives ashkénazes. Est-ce qu'il y a quelque chose... est-ce que vous avez besoin qu'on vous soutienne, que des bénévoles viennent
Oui, bien sûr. Parce qu'on ne se rend pas compte le temps que prend ce travail, notamment sur les archives. Je vais vous donner juste un exemple. Quand on recueille, quelqu'un nous amène des archives, et puis il y a des disques, il y a des choses comme ça. Bon, les disques, ça va encore souvent y indiquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a beaucoup de renseignements. Ça prend du temps, il faut les numériser. Il faut les cataloguer, c'est long. Un disque, quand il y a 18 pages, c'est comme si on avait 18 livres à cataloguer. Parce qu'à chaque fois, c'est un auteur différent, ça peut être un chanteur différent. Enfin, bon, ça prend du temps. Mais souvent, c'est des documents où il n'y a aucune indication. C'est une cassette, il y a marqué maman, papa. Ou il y a marqué CDR de telle année, on ne sait même pas dans quel rite. Donc il y a un gros travail, déjà, il faut numériser. Puis il faut trouver des gens qui connaissent un peu et qui vont dire, tiens, ça, je reconnais, c'est tel chant, etc. Vous me parliez, quelqu'un qui vient chanter une chanson, et est-ce que je reconnais ? Ben, je ne reconnaîtrai que si ça a été identifié auparavant. Donc on a, et ça c'est formidable, des bénévoles qui viennent et qui connaissent un peu soit la liturgie, soit qui connaissent le yiddish, soit qui connaissent l'espagnol ou qui connaissent l'arabe et qui viennent nous dire « Ah ben ça, je reconnais, c'est la chanson de ceci, de cela ». Ce qui fait que pour une cassette, ça peut demander 3-4 heures avant que cette cassette soit accessible en ligne, découpée et tous les morceaux identifiés.
En tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir cet institut,
venez,
d'aller voir le site, de découvrir vos newsletters. Et puis, on va se quitter avec une mélodie chassidique que vous avez choisie. Pourquoi cette mélodie-là en particulier ?
Alors, tout à l'heure, on a entendu ce mélange de klezmer et de salsa sur une chanson yiddish très connue, quand le rabbin danse, mais sauf que là, c'était quand le rabbin danse la salsa en yiddish. Et là, c'est de nouveau une chanson de danse d'un rabbin qui danse, donc on est dans le monde plutôt hassidique, mais qui a été collectée au tournant du XXe siècle. Et ça, c'est toute une histoire, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais il y a eu un mouvement folkloriste dans l'Empire russe au tournant du XXe siècle, avec un grand nom, c'était Joël Engel, qui a créé finalement une école de musique juive, de folkloriste juif, qui l'ont suivi et qui ont fait les premières missions de collecte. Ils enregistraient sur des cylindres, ils allaient dans les villages. Et ça, c'était formidable, parce qu'ils ont recueilli tout un répertoire qui, après, a été complètement détruit pendant la guerre. Ça, il ne restait plus rien. Et certains compositeurs, comme celui de Jacob Weinberg qu'on va écouter, en ont fait... les ont arrangés, et c'est rentré dans le répertoire classique. Mais vous allez entendre, c'est vraiment de la musique juive quand même.
Merci beaucoup Hervé Rothen, à très bientôt, donc à l'Institut des musiques juives, l'Institut européen des musiques juives, et on se quitte avec ce morceau.
Merci pour cette invitation Sandrine, au plaisir. Thank you.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.